Littérature
et confinure.
Confinure.
J'aime bien ce mot.
C'est quoi ce mot?
C'est confiture.
Ça veut rien dire du tout.
Littérature et confinure, Caroline Pastorelli.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là pour Littérature et Confinure. Il a créé un genre littéraire à lui tout seul, c'est le roman tiré de faits réels. Avec De sang-froid, Truman Capote fait d'un petit fait divers du Kansas, un classique de la littérature américaine, vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Ce roman apportera gloire et fortune à Capote, mais il précipitera aussi sa chute, marquée à jamais par sa rencontre avec l'un des deux assassins. Bienvenue dans Littérature et Confinure, épisode numéro 7. Sans doute, cette musique, Moon River, chantée par Audrey Hepburn, signe la bande-annonce du film Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé. C'est ce livre qui a rendu célèbre Truman Capote. C'est aussi, pour l'anecdote, pour ce film que Hubert de Givenchy a créé sa célèbre petite robe noire, cette tenue vestimentaire chic et sophistiquée new-yorkaise, aujourd'hui désormais incontournable. Quelques poignées d'années plus tard, en 1960, Truman Capote tombe sur un entrefilé du New York Times qui changera sa vie. Un fait divers relatant l'assassinat de 4 membres d'une famille de fermiers du Kansas pour un butin de $50. Il décide d'y consacrer un roman qui aura la particularité d'être inspiré de faits réels.
Depuis ce matin, Truman Capote est à Paris. Son roman, De sang-froid, a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Et l'histoire de ce crime commis en 58 dans le Kansas est devenue un autre succès du cinéma. Capote vient aujourd'hui le présenter à Paris.
If the film had been made exactly the way I would have wanted it to be, it would have run about.
Le film durait 14 heures. Mais le cinéma a ses exigences, il a donc fallu tirer de mon livre la quintessence. Richard Brooks y a parfaitement
réussi.
C'est l'histoire vraie donc de deux jeunes truands qui tuent, sans mobile apparent, 4 membres de la famille d'un fermier. Capote tient son reportage dont il fera une œuvre d'art. Il quitte alors New York pour le Kansas et enquête sur place, recueillant les témoignages des habitants, du shérif et même les assassins en prison. Quelle est leur histoire? Comment s'est déroulé le crime? Où et pourquoi? Comment s'est déroulée la traque? Comment se déroule le procès, les appels, les demandes de grâce? Capote s'intéresse à toute cette affaire avec une précision chirurgicale, en tout près de 8000 pages de notes, jusqu'à l'exécution des meurtriers qui marquera le point final de son livre. 4 années pour écrire ce livre, 4 années pour entrer dans la postérité, le journaliste et écrivain Philippe Labro racontait dans l'émission de Daniel Picouli son admiration pour cet homme, Capote, qui a saccagé sa vie pour écrire un roman.
Il est le premier à avoir effectivement écrit, vous l'avez dit, un roman qui n'est pas un roman puisqu'il repose
entièrement sur une vérité, celle d'un fait divers qu'il découvre un jour en lisant le New York Times, 4 ou 5 lignes, rien. Un fait divers, une famille de fermiers assassinée au milieu du Kansas, et là, Capote se dit, c'est pour moi. Donc il se présente là-bas, il rencontre les flics, il commence à s'assimiler à la petite ville de Holcomb, dans le Kansas, et puis il attend, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les assassins de ce fait divers. C'est ces mômes qui, comme vous disiez très bien, ont massacré pour rien, pour 30 quelques dollars, un couple de fermiers à leurs enfants. Et puis, on a arrêté les assassins quelque part dans le Nevada. Ils reviennent, il est là, il assiste à leur retour, dans la nuit, les voitures. Tout ça fabrique l'ensemble. Et enfin, il les rencontre. Il arrive par sa tchatche, comme on dit aujourd'hui, son baratin, sa faconde, son charme et sa réputation, à obtenir d'être l'interlocuteur, le confesseur, pratiquement, de ces deux voyous. C'est même pas des voyous, c'est la face cachée de l'Amérique. Et en particulier, l'un des deux, il y a Hickok et Smith. Et l'un des deux, c'est Perry Smith, auquel Capote va, non pas s'identifier, mais il va trouver des correspondances, des affinités. D'autant plus que Capote est homosexuel, ne le cache pas, et il tombe pas amoureux de Perry, mais il y a quand même un relationnel qui s'installe, ambigu, étrange. Il s'en sert d'ailleurs pour obtenir de Perry Smith et de Hickok, accessoirement aussi, le récit absolu de ce qu'ils ont fait. Et il assiste au procès. Il assiste aux remises de peine, il insiste même, lui, en payant pour certains avocats, pour que la peine soit suffisamment prolongée afin que lui puisse prolonger son enquête, ce qui, d'une certaine manière, est d'un cynisme absolu, d'une cruauté absolue. Il s'en rend compte, et comme il boit, comme il se drogue un peu, eh bien, ce travail est aussi un travail sur lui. Bon, il assiste à l'exécution, il rentre chez lui, il écrit. Et puis sort un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre terme, de sang-froid, In Cold Blood, hein, 4 ans d'écriture, la sortie, le triomphe. Je crois qu'il y a eu à peu près un tirage de 5 millions d'exemplaires. C'est un des livres les plus lus de cette génération, de cette époque. Et donc, d'une certaine manière, son triomphe est sa défaite. Il ne s'en remettra pas. Il continuera.